divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission proposée et présentée par Fabrice Millon et par Alexis Lacroix. Bonjour à toutes, bonjour à tous en ce dimanche matin. On est très heureux de vous retrouver, chers auditeurs de France Culture. Et nous sommes heureux d'accueillir Sylvain Solustri. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Sylvain, vous êtes conseiller de l'Ordre du Grand Orient de France et vous êtes également grand officier délégué au musée, aux archives, à la bibliothèque. Et à la culture, on a envie de dire vaste programme, n'est-ce pas?
Vaste programme, en effet, oui.
Et donc, vous êtes celui qui, notamment, bien sûr, organise chaque 1er mai la visite, on va dire, rituelle de l'obédience au Père Lachaise, notamment. Alors, comment ça va se passer cette année? Tiens, on peut commencer comme ça.
Ah bah, commençons comme ça, si vous voulez, oui, effectivement. Bien, l'idée est d'essayer de trouver des idées un petit peu originales pour faire tous les ans une cérémonie. C'est une cérémonie, finalement, qui ne soit pas trop répétitive.
Alors, justement, il faut varier les plaisirs, hein, sur, on va dire, sur une trame qui est celle de l'hommage républicain à la Commune. Qu'est-ce qu'on peut innover, justement, chaque année?
Alors, on peut innover déjà le parcours, le choix des sépultures, de ces maçons communards ou non communards, d'ailleurs. On peut déborder un peu sur le thème. Cette année, en 2024, on était sur le thème de la résistance.
Oui, qui était un défi
rouge. Également.
Un défi rouge, Sylvain Solustri, de l'action du Grand Orient au cours de l'année,
c'est
d'ailleurs.
C'est ça.
Résister, c'était un défi rouge.
Exactement. Résister, espoir, etc., etc. Ce qui fait que j'avais fait venir une troupe de gens extrêmement compétents qui ont d'ailleurs un spectacle de rue sur la Commune de Paris et qui ont donné quelques extraits en chansons, etc. Et cette année, je suis en train d'essayer pour l'année prochaine, pour 2025,
alors,
de mettre au point quelque chose.
Sylvain Solustri, c'est vrai qu'on a le plaisir de vous avoir ce matin dans divers aspects de la pensée contemporaine, donc vous allez peut-être nous livrer quelques secrets, justement, sur cette version 2025 du 1er mai maçonnique.
Pour vous livrer quelques secrets, il faudrait que je les connaisse moi-même. Et pour l'instant, c'est encore à l'état de projet. On a le temps, hein, d'ici le mois de mai. J'ai plusieurs fers au feu. On verra comment ça se précise.
On vous réinvitera, bien sûr, sur France Culture pour en parler. Nous sommes ensemble, donc vous êtes conseiller de l'ordre, grand officier délégué au musée, aux archives, à la bibliothèque et à la culture plus généralement du Grand Orient de France. Alors, on le sent, hein, bien sûr, tous ceux dans les territoires, mais aussi évidemment à Paris, qui connaissent leur région, qui connaissent leur ville, etc., savent très bien qu'il y a un patrimoine maçonnique considérable en France, parfois un petit peu sommeillant. C'est quoi votre rôle, justement, par rapport à ce patrimoine?
Bien, écoutez, moi, je suis parti avec l'idée qu'à partir du moment où on s'intéresse à une activité humaine, quelle qu'elle soit, artistique généralement, il est important de savoir ce qui s'est fait avant et de chacune de ces activités, qu'on parle de musique, de peinture et même de franc-maçonnerie, il y a un patrimoine, une culture, un historique qui s'y rattache, et c'est tout cela qu'il faut essayer de mettre en valeur.
Aucun maçon n'est en quelque sorte sa propre création, il s'inscrit dans une filiation.
Totalement.
Voilà, et puis dans une filiation qui est aussi celle de l'héritage, hein, de la longue durée de la chaîne de transmission, hein, de la maçonnerie depuis dans son histoire multiséculaire.
Cette chaîne qui vient du passé et tend vers l'avenir, dit-on dans nos rituels, eh bien, c'est cela aussi, ça s'inscrit également dans ce côté culturel.
Alors, Sylvain Solustri, ce qu'on a envie de comprendre, hein, c'est comment s'inscrit, justement, concrètement, ce patrimoine maçonnique initiatique dans le paysage urbain des villes françaises.
Alors, je crois que les anciens bâtisseurs, ceux qui ont construit nos villes, et principalement la capitale, bien sûr, mais également ailleurs, ont essayé de laisser dans la pierre, peut-être, une espèce de témoignage, une espèce de jeu de piste géant pour leurs successeurs.
C'est
un peu comme ça que je l'interprète parfois. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de retrouver tout ça qui est au vu et au su de tout le monde. Il n'y a rien de caché. C'est là. Visible.
Mais encore faut-il donner des exemples, donner par exemple, dans les villes françaises, Sylvain Solustri.
La chose qui me vient en premier à l'esprit, bon, moi je suis parisien de naissance, hein, c'est évidemment ma capitale, mais je sais que ça existe ailleurs, c'est le Louvre, par exemple. Le Louvre est truffé de symboles maçonniques. Et alors évidemment, il y a des choses un petit peu contradictoires. C'est vrai que sur l'un des bâtiments, puisque le Louvre a été construit sur 8 siècles pratiquement, sur l'un des bâtiments qui date de 1548, on trouve des signes signe maçonnique. Alors, ça interpelle beaucoup les maçons que j'emmène parfois sur les lieux. Ils me disent, mais enfin, en 1548, la maçonnerie n'existait pas telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Bah oui, mais la maçonnerie n'est pas tombée du ciel. Elle vient bien de quelque part. Et donc, on retrouve ces traces du passé, des bâtisseurs, etc.
Alors, Sylvain Solustri, c'est passionnant. Vous êtes conseiller de l'ordre. Vous êtes spécialiste de la culture, pour ce qui concerne le Grand Orient. Grand officier délégué aux musées, aux archives, à la bibliothèque et plus généralement à la culture. Vous organisez des visites, dans Paris, mais pas seulement dans beaucoup de villes, en région, en règle générale, pour faire découvrir au public, initié ou profane, ce patrimoine maçonnique très important que compte le territoire français.
Absolument. On a des archives, on a des objets qui sont conservés par les loges dans différentes villes, en région et même outre-mer. Et il est important de les montrer au cours d'expositions temporaires. Et nous pouvons, en tant que obédience, en tant que musée, aider, par exemple, à organiser des manifestations locales avec en prêtant même du matériel que nous avons, en prêtant des panneaux explicatifs, donnant également des idées, par exemple au public profane, sur les grandes valeurs développées par le Grand Orient, notamment la laïcité.
Alors, il y a une expo temporaire sur la laïcité. Ouais, tout à fait. Quel bilan vous en tirez, Sylvain Solustri, de cette exposition? Est-ce qu'elle a attiré vers les loges des personnes qui connaissaient mal, mais qui avaient envie de se familiariser Absolument. Avec les rituels, avec la philosophie, avec l'humanisme plus largement?
Je dirais que c'est un petit peu en filigrane de tout ça, cette découverte de ce patrimoine maçonnique. C'était également de faire venir vers nous des personnes intéressées, des personnes qui seraient restées isolées, qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire progresser le monde, de faire progresser la société, qui ne savent pas très bien comment s'y prendre, et qui disent « Ah bah tiens, il y a quelque chose qui nous permet de le faire, qui nous permet d'aller vers ça ». C'est un filet, en quelque sorte, pour ratisser. Alors, nous ne faisons pas de prosélytisme, c'est bien entendu, mais ça permet aux gens de se rapprocher et de voir qu'il y a des endroits, des lieux où on peut réfléchir ensemble à ce qu'est la société, à ce qu'est le monde, à ce que nous sommes nous-mêmes.
Alors, je ne sais pas si vous attendiez à ce petit quiz dans le cadre de divers aspects de la pensée contemporaine, Sylvain Solustri, mais si vous deviez citer 5 grands lieux maçonniques en France, par exemple, qu'est-ce que vous pourriez citer?
Alors là, effectivement, c'est une espèce de piège que vous me tendez, parce que en France, c'est-à-dire que les lieux maçonniques sont souvent reliés à des lieux historiques, c'est-à-dire notamment à la Révolution française, à la Commune de Paris, puisqu'on sait que la Commune de Paris n'a pas eu lieu qu'à Paris, elle a eu lieu dans différentes villes. On sait qu'il y a eu une commune à Saint-Étienne, à Lyon, à Limoges, etc., etc. Donc il y a des traces tangibles de tout ça dans ces différentes villes.
Un certain nombre de bâtiments historiques, disons, liés à des époques, vous évoquez la Révolution française notamment.
Exactement.
Ils sont chargés, par ailleurs, agrémentés, ornés de symboles maçonniques.
Tout à fait, et notamment le funéraire maçonnique. Funéraire maçonnique, on va dans les cimetières et souvent on a la surprise dans des petits villages même de trouver une sépulture avec une équerre, un compas, etc. Alors là, ça devient intéressant d'essayer de chercher qui repose là-dedans, parce que on a dans les cimetières, on a des grands maçons connus comme tels, dont souvent la tombe n'est pas repérée comme telle, mais on a également des sépultures ornées des symboles habituels, mais dont ceux qui sont enterrés là n'ont pas marqué l'histoire par leur présence, n'ont pas été de grands savants ou de grands artistes ou de grands politiques. Non, ce sont de braves pères de famille qui ont voulu marquer leur appartenance maçonnique par-delà la mort.
Alors, Simon Solustri, c'est passionnant. Vous êtes conseiller de l'ordre, grand officier délégué à la culture et en particulier au musée, à tout ce qui est les questions relatives aussi aux archives. Comment s'organise justement la mise en valeur ou la mise à disposition des archives du Grand Orient de France, sous votre houlette, je suppose?
Sous ma houlette, c'est-à-dire que j'exerce, comment vous dirais-je, en tant que conseiller de l'ordre délégué à ses fonctions une espèce de contrôle, mais nous avons des salariés, des frères et des sœurs qui s'en occupent et qui s'en occupent remarquablement bien, qui gèrent parfaitement les choses, et on a un outil exceptionnel de nos jours qui est l'informatique.
Absolument.
Qui permet justement de transmettre. On a des demandes venant de partout, venant de loges qui cherchent à retrouver leur histoire, leurs origines, etc. Et nous avons tout ça, on peut leur communiquer tous ces documents. Il y a énormément de choses à disposition des loges, mais également également des profanes. On a des chercheurs, des étudiants qui veulent faire une thèse sur tel ou tel sujet, qui viennent nous voir, qui nous consultent. Et nous avons bibliothécaires, archivistes, qui sont des personnes extrêmement compétentes.
Alors Sylvain Solustri, c'est passionnant. Vous êtes conseiller de l'ordre, grand officier délégué au musée, aux archives, à la culture en particulier. On parle justement de cet accès donné à des profanes, à des éléments en quelque sorte initiatiques, mais sur l'histoire du Grand Orient de France. Ça se fait autour de vous, vous êtes un petit peu l'organisateur de l'ensemble, si vous voulez, de cette transmission vivante. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un public croissant qui s'intéresse, sans être du tout initié, en étant profane, mais qui s'intéresse à l'histoire de la maçonnerie et du Grand Orient de France en particulier?
Oui, je vous reprends un petit peu, je dirais pas que je suis l'organisateur, je dirais que je suis plutôt le coordinateur.
Bon, coordinateur, voilà, d'accord. Autant pour moi.
C'est une nuance. Mais effectivement, nous avons des chiffres, des statistiques très nettes qui nous montrent que le public qui s'intéresse à l'histoire de la maçonnerie en général et à d'autres choses est de plus en plus nombreux.
Alors, ça s'explique peut-être aussi par le désir de se réaffilier dans nos sociétés. On connaît les théories de Régis Debray, notamment, sur le fait que dans des sociétés très individualistes, au fond, les personnes sont à la recherche d'un « nous », d'un collectif. Et au fond, peut-être que cet intérêt témoigne de cette recherche grandissante de l'affiliation à un « nous ».
Sans doute, je crois qu'on peut le dire comme ça. Et puis il y a aussi peut-être le phénomène qu'on s'est mis à parler beaucoup plus de maçonnerie qu'on en parlait avant, c'est-à-dire que les francs-maçons ne se cachent plus d'une façon générale. Ça aussi c'est un phénomène assez nouveau. Avant on ne le disait pas, aujourd'hui on s'en revendique parce que finalement jusqu'à présent on n'avait pas grand-chose à redouter de ça. C'est vrai qu'il y a eu des persécutions contre les francs-maçons à travers l'histoire. De nos jours en France, ma foi, il y a un anti-maçonnisme qui existe, sur lequel on met aussi l'accent dans notre musée. On montre aux gens qu'il y a un antimaçonnisme. Mais dans la mesure où c'est devenu une chose beaucoup plus publique, ne serait-ce que par cette émission notamment, qui est écoutée par beaucoup, je vois que c'est ce qui crée le regain d'intérêt et l'augmentation des personnes qui s'y intéressent.
Alors c'est très intéressant, Sylvain Solustri, ce que vous dites sur le secret. Au fond, le secret se relâche un petit peu. On n'a pas le droit, en revanche, de divulguer l'appartenance à la maçonnerie d'autrui sans son consentement. Mais en revanche, on peut dire que pour soi-même, on est membre d'une loge ou d'un atelier, vous avez raison. Néanmoins, il y a quand même un anti-maçonnisme très fort dans la société d'aujourd'hui, et on peut dire qu'il y a des léotaxiles contemporains. Comment oui. Le musée présente-t-il justement les permanences de cette tradition de haine de la maçonnerie?
J'aimerais d'ailleurs qu'on ait une vitrine un petit peu plus importante sur ce sujet, parce qu'il y a des choses quand même assez drôles. C'est très caricatural parfois de nos jours. Quand on lit léotaxile aujourd'hui, bon, c'est plutôt amusant quand on sait que les francs-maçons, d'après Léotaxile, faisaient apparaître le diable sous la forme d'un crocodile vert, le vendredi soir seulement, d'ailleurs pas les autres jours de la semaine, seulement le vendredi. Bon, aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais il y a peut-être des gens qui le croient encore. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est d'essayer de démystifier tout ce qui se trouve autour de la franc-maçonnerie. Alors, on y arrivera ou on n'y arrivera pas, d'ailleurs, parce que si les gens sont absolument persuadés que c'est comme ça que ça se passe et que nous sommes une secte et que nous sommes les Illuminati, il n'y a rien au monde qui pourra les en dissuader. Mais notre travail est justement d'essayer de les amener vers ça, de leur dire, vous voyez, nous ne sommes pas une secte, nous sommes une société de pensée où nous essayons de travailler, déjà à nous améliorer nous-mêmes, et puis si on y arrive, il y a encore du boulot d'améliorer la société et tout ce qui est autour, le monde qui est autour de nous.
Vous avez l'impression que les perceptions, justement, de beaucoup de profanes aujourd'hui, comment dire les choses simplement, se détendent, oui, vis-à-vis de la maçonnerie et du secret qui lui est quand même inhérent.
Nettement. Déjà, on leur dit, on leur explique que le secret, qu'est-ce que c'est le secret? Il n'y a pas de secret. Le secret, sur les rituels, par exemple, il n'y en a plus. On va sur Internet, on a tout ce qu'on veut. Donc, c'est pas ça. S'il y a un secret, il n'est pas là. On leur explique que le secret, c'est peut-être un secret intime, le secret de l'initiation, c'est tout. Bon. Et on voit lors des journées du patrimoine, par exemple, lors de la nuit des musées, nous avons énormément de jeunes qui viennent vers nous, qui nous posent 1000 questions, qui veulent en savoir plus. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement le verrou saute un peu et un petit peu plus tous les ans, et il faut s'en réjouir.
Sylvain Solustri, vous êtes conseiller de l'Ordre du Grand Orient de France. C'est un grand plaisir de vous avoir dans divers aspects de la pensée contemporaine ce matin. Je pense que votre discours interpelle d'ailleurs beaucoup de nos auditrices, beaucoup de nos auditeurs. Vous occupez de la culture, du musée en particulier, on vient d'en parler. vous occupez des archives, vous coordonnez l'archivage de tous les documents relatifs à l'histoire du Grand Orient de France. On vient de parler du conspirationnisme antimaçonnique. Vous en relativisez peut-être la force aujourd'hui, ça c'est intéressant. Dernière question, justement, peut-être justement sur cette perception. Comment s'inscrivent les ciné-débats que vous organisez dans cette espèce de décloisonnement progressif de l'image de la maçonnerie auprès des profanes, auprès des Français qui ne sont pas initiés de près ou de loin ou qui ne connaissent pas dans leur famille de gens qui aient été initiés?
Ben, je vous remercie Alexis de parler du ciné-débat également, un sujet intéressant qu'on a peut-être failli oublier, je ne sais pas, non, on ne l'a pas oublié. Effectivement, nous organisons à fréquence de à peu près une fois par mois et demi, des séances de ciné-débat dans le grand temple de la rue Cadet. Mais là encore, ça peut s'exporter. On a exporté des ciné-débats à Toulouse, par exemple, l'année dernière, et dans d'autres villes qui nous demandent, prochainement à Strasbourg, sur des sujets.
Ça va être très demandé, Sylvain Solustri.
Oui.
Donc j'imagine que dans l'année qui vient, il y aura peut-être des occasions de, comme vous dites, de les exporter dans les territoires, dans les grandes métropoles, etc.
On prend contact avec moi ou avec le grand maître adjoint délégué à la culture, qu'il ne faut pas oublier, et qui fera le nécessaire. Bon, le principe est très simple, on projette un film que nous choisissons, on a une petite équipe, que nous choisissons en fonction des valeurs que nous défendons au Grand Orient de France, et ensuite, à la fin de cette projection, on a toujours un intervenant qui parle, qui prend la parole, c'est soit le réalisateur du film, soit des gens qui sont au fait du sujet qui est traité, et puis la parole circule dans la salle et il faut souligner que ces ciné-débats sont ouverts également aux profanes. Je rappellerai pour nos auditeurs qui ne le savent pas que fanum en latin ça veut dire le temple, que pro ça veut dire devant, donc le profanum c'est celui qui n'est pas encore entré dans le temple.
Qui est devant le temple.
Ça n'est pas péjoratif.
Merci beaucoup. Alors on reviendra avec vous, il y aura d'autres occasions sur le contenu même de ces ciné-débats parce qu'il y a plein de films, j'imagine, intéressants que vous montrez. Merci en tout cas pour cette conversation passionnante sur vos activités, Sylvain Sélustri, au sein du Grand Orient de France pour l'extériorisation de l'obédience par la culture. C'est de cela qu'il s'agit, bien sûr. On peut retrouver l'ensemble des rendez-vous cinématographiques, muséographiques que vous organisez sur le site du Grand Orient de France, www.godf.fr. Et on vous souhaite un très bon dimanche.
Merci Alexis. Pareillement, je vous souhaite également, ainsi qu'à tous les auditeurs, le meilleur dimanche possible.
Merci beaucoup. C'était divers aspects de la pensée contemporaine, avec à la technique Guillaume Ficheux, à la réalisation Jean-Christophe Francis et à la préparation et coordination éditoriale Claire Poinsignon. Un très bon dimanche à tous.